Le débat fait rage. C'est après le vote de l'article 4 de la loi du 24 février 2005 qui imposait une lecture historique positive de la colonisation française que le débat sur les lois mémorielles en est parvenu à son paroxysme. La polémique avait surgi après le dépôt d'une plainte fondée sur la loi Taubira pour contestation de crimes contre l'humanité à l'encontre de l'historien Olivier Petré-Grenouillot. Ce dernier refusait de considérer les traites négrières comme un génocide. Même si la plainte fut retirée depuis, cet événement a souligné les méfaits que pouvait entraîner l'officialisation par la loi d'une bonne interprétation de l'histoire. Depuis, on assiste à un débat polémique entre historiens, chacun détenteur de conceptions différentes sur les rapports entre la loi et l'histoire. Les lois mémorielles incitent-elles à une guerre des mémoires et une concurrence des victimes, ou est-ce l'apparition dans le champ politique français d'associations aux revendications mémorielles qui poussent à la concurrence des victimes et à l'établissement de lois mémorielles? C'est cette question que nous avons voulu poser à Guy Pervillier en marge du colloque intitulé « La France et l'Algérie, l'histoire et l'avenir en partage » qui s'est tenu lors des journées de l'Arazet. Guy Pervillier est historien, il enseigne à l'université Toulouse 2 et il est spécialisé dans l'histoire de la colonisation et décolonisation de l'Empire colonial français. Guy Pervillier a donc accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. Je vous propose donc de l'écouter tout de suite. Dans quel état d'esprit on aborde ce terrain d'étude? On a l'impression quand même qu'il est miné par des positions le plus souvent partisanes. Est-ce que c'est toujours le cas?
La question est une très bonne question et la réponse un peu difficile. Le fait est qu'actuellement, les historiens ne sont absolument pas perçus menant une activité intellectuelle indépendante des conflits politiques. Et ils sont plutôt perçus comme les auxiliaires de tel ou tel camp qui s'affrontent sur des enjeux encore politiques. Et cela malgré l'éloignement du temps qui devrait normalement conduire à un remplacement des problèmes politiques par des problèmes proprement historiques. En fait, cette évolution ne s'est pas produite et on peut presque avoir l'impression d'une inversion du temps. Et pourtant, l'histoire de la guerre d'Algérie ou l'histoire de l'Algérie coloniale existe et elle est de plus en plus dynamique, en particulier grâce à l'ouverture de la plus grande partie des archives publiques concernant la guerre d'Algérie, qui s'est faite à partir de 1992. Il y a eu donc, en conséquence de cette décision, une multiplication des thèses en histoire menées par des jeunes chercheurs. Donc il s'agit d'une branche de l'histoire qui est de plus en plus dynamique. Et pourtant, le fait est que ce dynamisme n'est pas perçu, ou plus exactement que les historiens sont perçus surtout à travers leur prise de position, soit politique, soit exploitée par les camps qui s'affrontent dans cette guerre des mémoires, donc politique.
Dans la République, il n'y a pas d'histoire officielle.
Je crois qu'il y a une question qui est très importante, c'est qu'il y a une pression des groupes de mémoire dans la société française aujourd'hui pour faire en sorte, effectivement, que leur vécu, leur douleur soient prises en compte et reconnues.
Ce n'est pas à la loi d'écrire l'histoire. L'écriture de l'histoire, c'est l'affaire des historiens.
Donc vous accréditez le fait qu'il y ait une concurrence des victimes ou une concurrence des mémoires?
Oui, il y a en effet une concurrence des mémoires et il y a également une évolution très spectaculaire dans le débat public en France. Alors je veux dire qu'il y avait pendant longtemps une politique de la mémoire, donc une politique publique de la mémoire qui consistait à choisir certains événements considérés comme glorieux, et donc on s'efforçait d'organiser une commémoration, en particulier de la Première Guerre mondiale et même de la Deuxième Guerre mondiale, visant à rassembler les citoyens dans un sentiment de fierté. Mais malheureusement, donc depuis quand? On peut dire pratiquement depuis 1995 et l'élection du président Chirac, nous assistons à un retournement presque complet. C'est-à-dire qu'il est toujours question de politique de mémoire, d'intervention des instances politiques dans la mémoire nationale, mais de plus en plus, c'est une mémoire honteuse fondée sur la notion de repentance qui est mise en avant. Et on peut dire que parmi les lois mémorielles qui se multiplient depuis 10 ans, et surtout depuis 2001, eh bien, sur 4 lois principales, il n'y en a qu'une qui peut être considérée comme glorieuse pour la France. Enfin, c'est la loi concernant le génocide des Arméniens par les Turcs, dans lequel la France n'a aucune culpabilité. Elle peut même se vanter d'avoir participé au sauvetage de quelques milliers de Turcs réfugiés sur un cap de la côte ottomane. Mais pour tout le reste, eh bien, nous assistons à un enchaînement de déclarations de repentance. Alors, le premier acte, on peut dire, c'est la déclaration du président Chirac qui a reconnu que la France était responsable des crimes du régime de Vichy, et en particulier la complicité de Vichy dans la déportation des Juifs.
Jusqu'à Jacques Chirac, même Mitterrand s'était interdit de le faire parce qu'il considérait que le régime de Vichy, ce n'était pas la France, c'était plus la République. Exactement. Puisqu'elle avait été abolie.
Et c'est sur ce point que le président Chirac a rompu, en prenant une position qui d'ailleurs est tout à fait défendable. Il est vrai qu'il y a une différence entre les présidences antérieures à celle de Jacques Chirac et celle dans laquelle nous sommes encore, justement parce que tous les présidents précédents avaient de fortes réticences à l'idée d'une repentance nationale.
Aimé Césaire, figure politique, poète de la négritude, informe dès dimanche le ministre qui ne le recevra pas pour deux raisons. La première personnelle, la seconde parce que lui, l'anticolonialiste résolu, ne digère pas le fameux article 4 de la loi sur les rapatriés, voté en février dernier et qui impose au manuel scolaire de valoriser le rôle positif de la colonisation française. Depuis deux jours en Martinique, la température...
Personne n'a fait de procès à la France, mais la France se fait un procès continuel. Enfin, il ne faut pas non plus négliger quand même... Toutes les paroles victimaires qui aujourd'hui s'agglomèrent, toutes les mémoires.
Il y a une concurrence des victimes.
Il y a une concurrence des victimes depuis des années, mais ce n'est pas né d'aujourd'hui, c'est au moins 15-20 ans. Toutes les catégories sociales aujourd'hui se présentent sous l'aspect du génocide. Donc pourquoi ? Parce qu'on veut endosser la souffrance maximale pour être entendu. Parce que tout le monde se bat pour être reconnu par la puissance étatique et pour avoir la sympathie de l'opinion.
C'est la morale qui intervient dans l'histoire. Ça va même au-delà du bilan comptable. Il faudrait faire un bilan comptable et en plus donner une valeur morale. L'historien ne peut pas rentrer là-dedans.
Seuls les totalitarismes, soviétiques en particulier, se sont arrogés le droit, par un décret politique, d'écrire ce que l'histoire et l'enseignement de l'histoire devraient être.
C'est vraiment le président Chirac qui, le premier, s'est engagé nettement dans cette voie d'une politique mémorielle qui est devenue, je dirais dans 3 cas sur 4, une politique d'humiliation nationale. Enfin, l'expression est un peu polémique, dans la mesure où elle consistait à avouer une culpabilité. Et on peut dire qu'il y a une sorte de révision, enfin de la vision nationale de la Deuxième Guerre mondiale, donc avec cette reconnaissance de la culpabilité de Vichy et donc de l'État français, comme il s'appelait à l'époque, envers les Juifs. Et ce modèle a été transposé aussitôt, ou presque, en tout cas à l'occasion du procès de Maurice Papon, qui a donc été jugé et condamné pour son rôle dans la déportation des Juifs de Bordeaux par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais le procès a été l'occasion de rappeler son rôle comme préfet de police dans la répression de la manifestation algérienne du 17 octobre 1961. Et ainsi, on a eu l'occasion d'une transposition du modèle de repentance nationale à propos de la guerre d'Algérie. Et enfin, eh bien, il y a eu aussi le vote en 2001, alors non seulement de la loi sur le génocide arménien dont j'ai parlé, mais également la loi Taubira-Hérault, par lequel la France reconnaît comme un crime contre l'humanité la mise en esclavage et la déportation des Noirs d'Afrique vers les Antilles, alors que la période couverte par cet aveu va du 15e siècle au 19e siècle, c'est-à-dire une époque dont il ne reste aucun survivant. Alors que signifie donc le fait de reconnaître un crime défini comme tel pour une époque dont tous les acteurs sont morts? On peut s'interroger, et on ne doit pas, à mon avis, se contenter de considérer cela comme une curiosité assez dérisoire, parce que cette loi se termine par un article ayant un caractère pénal, qui autorise les descendants des victimes à porter plainte contre tous ceux qu'ils estiment porter atteinte à leur mémoire.
Ce fut le cas pour M. Petré Grenouillot.
Et justement, la gravité de cette disposition est apparue avec la plainte lancée contre l'historien Olivier Petré Grenouillot, qui venait d'être récompensé pour un livre important sur la traite des Noirs et l'esclavage. Et ainsi, on voit que la France s'est engagée, peut-être sans y réfléchir, dans une voie qui remet en question, pour la première fois, en tout cas, pour la première fois, je dirais, depuis le régime de Vichy, la liberté des historiens de faire leur métier suivant leur conscience, se trouve maintenant remise en question, puisqu'il semble admis qu'il appartient à l'Assemblée nationale et au Sénat de décider de la vérité historique. Autrement dit, il y a une confusion totale entre la notion de mémoire et celle d'histoire. Et c'est là qui est très grave pour la survie de l'histoire en France.
Dans la République, il n'y a pas d'histoire officielle.
Les livres d'histoire que l'on achète, c'est pour comprendre l'époque et comprendre une époque et surtout éviter ce péché majeur pour l'historien qui est l'anachronisme, c'est-à-dire de projeter nos sentiments d'aujourd'hui sur le passé. Alors, faire le bilan de la colonisation, c'est absolument impossible. Car qui dit bilan? Qu'est-ce que ça veut dire un mot bilan? Ça veut dire un bilan, ça veut dire en deux colonnes. Ça veut dire l'actif, ça veut dire le passif. Et ça veut dire qu'une fois qu'on a dressé le bilan, il y a soit une perte, soit un profit. Il est évident que c'est totalement absurde.
Ce n'est pas à la loi d'écrire l'histoire. L'écriture de l'histoire, c'est l'affaire des historiens.
C'est la morale qui intervient dans l'histoire. Ça va même au-delà du bilan comptable. Il faudrait faire un bilan comptable et en plus donner une valeur morale. L'historien ne peut pas rentrer là-dedans.
Bien entendu, cette situation est aussi le produit des revendications de communautés sont motivés par l'envie devant le privilège juridique qui a été accordé à une autre. En fait, le point de départ de tout cela est antérieur à l'élection du président Chirac. C'est la loi Guesso de 1990 qui a créé pour la première fois donc un délit pénal spécialement pour punir ceux qui remettaient en question les jugements du tribunal de Nuremberg concernant l'extermination des Juifs par les nazis. Or, pendant longtemps, cette loi est restée unique en son genre, mais elle a créé inévitablement des sentiments d'envie. Alors, on s'en est aperçu 5 ans plus tard, en 1995, quand les associations arméniennes ont porté plainte contre l'historien américain Bernard Lewis pour une interview au Monde dans laquelle il contestait le bien fondé de la notion de crime contre l'humanité appliquée aux Turcs contre les Arméniens en 1915, ce qui a entraîné alors un procès, alors exactement une première tentative de procès qui a échoué, puisque elle se référait donc à la loi Guesso, mais qui était valable uniquement pour l'extermination des Juifs par les nazis, et donc n'était pas valable pour la Première Guerre mondiale. Mais les organisations qui ont porté plainte ont trouvé un autre biais pour obtenir la condamnation, même symbolique, de l'historien américain. Mais à cette époque, la présidente de la Ligue des droits de l'homme, qui était l'historienne Madeleine Rébériou, avait très nettement condamné d'abord la loi Guesso et ensuite la tentative de l'étendre au cas des Arméniens. Dans les deux cas, pas du tout par sympathie pour les bourreaux et pour les aider à échapper à la justice, mais au contraire, par inquiétude pour l'avenir même de la liberté des historiens sur ces sujets. Et elle a ainsi fait des prophéties qui ont été entièrement vérifiées, puisque après les Arméniens se sont... Alors, bon, les Arméniens ont obtenu une première satisfaction avec le vote d'une loi qui condamnait, donc qui reconnaissait officiellement le génocide commis à leur encontre par les Turcs, sans d'ailleurs qu'on précise qu'il s'agissait des Turcs. Bon, donc ceci au début de 2001, puis quelques mois après, surtout le vote de la loi Taubira-Hérault qui concernait, comme je l'ai dit, je crois, la condamnation de la mise en esclavage et de la déportation des esclaves noirs de l'Afrique vers les Amériques. Et là, comme je l'ai dit, ce qui est très grave, c'est qu'on on applique la notion de crime contre l'humanité à des faits dont il n'y a plus aucun survivant. Bon. Et ce n'a été qu'une étape, puisque ensuite est venue la fameuse loi du 23 février 2005, qui, elle, n'était pas une loi de condamnation, mais une loi de glorification des Français d'Algérie et de tous les habitants de l'Algérie qui avaient combattu dans les armées françaises, ce qui implicitement les justifiait par opposition à la révolte des Algériens nationalistes. Or, il se trouve que c'est seulement cette dernière loi, donc du 23 février 2005, qui a été vivement critiquée par une pétition d'historiens et d'enseignants d'histoire, pétition justifiée en soi, mais qui n'a pas dit, malheureusement, que cette loi n'était pas la première ni la pire en la matière. D'autant plus que le point le plus discutable de cette loi était plus ou moins recopié sur la loi Taubira-Hérault. Bon, voilà. Et il y avait également, on a très peu parlé, le projet de traité d'amitié franco-algérien, qui lui n'est pas une loi à proprement parler, mais qui va toujours dans le même sens de la repentance de la France. Et c'est là qu'on peut dire que la France s'est engagée dans une politique de mémoire qui devient de plus en plus une politique de repentance à la place d'une politique de glorification.
Ça veut dire à la remorque de ce que demanderait l'Algérie.
Et effectivement, l'Algérie, tout au contraire, elle, a une politique mémorielle de glorification de la guerre qu'elle a menée, de tous les combats qu'elle a menés contre le colonialisme français. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas égalité entre les deux partenaires dans la négociation de ce traité.
Nous vous accusons de maintenir l'imaginaire colonial, de maintenir la domination coloniale, et nous nous unirons pour vous mettre à bas.
Et ces jeunes qu'on dit issus d'immigration, qui sont de jeunes Français, constatent simplement qu'ils subissent des discriminations. Ils essaient d'élucider les raisons de ces discriminations. Et qu'est-ce qu'ils constatent? Ben voilà, que ce soit du Maghreb, de l'Afrique ou de la Caraïbe, leurs parents viennent de l'ancien empire colonial français, et pour ça ils sont...
Nous vous accusons de maintenir l'imaginaire colonial, de maintenir la domination coloniale, et nous nous unirons pour vous mettre à bas.
On a parlé pendant 2 jours de colonisation. Il y a un mouvement qui est né ces dernières années, notamment à gauche et plutôt à l'extrême gauche. J'ai été surpris qu'on n'en entende pas parler ce soir. C'est les indigènes de la République.
Alors effectivement, bon, cette pétition des indigènes de la République est d'abord un texte politique auquel on peut reprocher d'affirmer purement simplement que les pratiques du passé et les réalités du présent sont une seule et même chose. Or, cela est très discutable, puisque, par exemple, la déportation des Noirs consistait à les sortir de leur milieu naturel africain pour les envoyer travailler la terre des plantations d'Amérique. Ce n'est pas du tout la situation actuelle dont se plaignent un certain nombre de descendants, de jeunes descendants d'Africains ou d'Antillais, par exemple. D'autre part, on constate que cette pétition est aussi l'instrument d'une politique d'unification de deux mémoires d'opposants potentiels, à savoir les Africains noirs et, d'autre part, les musulmans. Et cette unification des revendications, donc revendications mémorielles, suppose qu'il y ait une tentative plus ou moins délibérée d'effacer la mémoire des conflits qui ont existé entre ces deux composantes. Car ce que ne dit pas la pétition et ce que ne dit pas davantage la loi Taubira-Hérault de mai 2005, c'est bien la déportation, la mise en esclavage d'abord des Noirs par les Noirs, car il ne faut pas oublier que les négriers blancs, dans la plupart des cas, achetaient leurs victimes à des trafiquants africains, mais aussi la traite des Noirs organisée pendant beaucoup plus longtemps de l'Afrique noire vers les pays musulmans par des trafiquants musulmans. Et cela non plus, la pétition n'en dit rien, et on peut penser que sa fonction est justement de faire oublier ces anciennes oppositions.
Cette émission s'achève. Merci beaucoup à Guy Pervillier ainsi qu'aux organisateurs des Journées de la Razette.